Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mondial Sport, tous les exploits aux quatre coins du globe sur RFI, une émission qui voyage dans l'espace et dans le temps. Ce dimanche, retour sur le dénouement de la BAL, la BAL, la Basketball Africa League. La cinquième édition s'est refermée la semaine passée à Pretoria en Afrique du Sud sur le triomphe d'Al Ahly Tripoli. Premier succès libyen à l'issue des premiers play-offs organisés hors du Rwanda depuis le lancement de celle qu'on surnomme la NBA du continent. La BAL qui évolue, qui change, qui se développe positivement. C'est ce que nous allons voir dans les minutes qui viennent. D'un point de vue sportif, certaines régions auront peut-être un bilan mitigé. Les Maliens et les Sénégalais, par exemple, ils regretteront les performances de leurs équipes, mais ils se consoleront avec des distinctions individuelles et non des moindres. Alors, la balle, est-ce que c'était de la balle? Nous poserons notamment la question à deux dirigeants de la Ligue. Vous entendrez notamment le président, rien que ça, Amadou Galofal, Joachim Noah, Boris Diaw, des légendes de la NBA, seront également avec nous. Bon, un peu à distance, mais bref, c'est quand même pas mal. Impossible de ne pas consacrer Mondial Sport MVP des émissions sportives ce dimanche.
En Afrique du Sud, c'est plutôt rugby et foot. Mais voir cette foule aujourd'hui surmotivée pour du basket, c'est tellement prometteur.
Tu vois, c'est comme les NBA d'Afrique. C'est pour nous les basketteurs.
Maintenant, je vais beaucoup plus m'intéresser à cette ligue. J'ai hâte de voir la suite.
Et qu'est-ce que vous pensez du niveau des joueurs à regarder, c'est comment?
Ouais, le niveau des joueurs, c'est vraiment trop élevé. Et je crois qu'avec le même joueur, ils peuvent avoir aussi l'opportunité de bien performer au niveau s'ils arrivent à la NBA aussi.
J'espère voir de plus en plus d'événements comme ça en Afrique du Sud.
C'était un match fantastique, difficile mais fantastique.
Al Ahly Tripoli qui s'impose 88 à 67 face au tenant du titre, le Petro de Luanda. C'était donc à Pretoria en Afrique du Sud samedi dernier. Sous les yeux de fans enthousiastes, interrogés par Valentin Hugues, des fans qui parlent plusieurs langues. Lui aussi avait les yeux à Pretoria et lui aussi était enthousiaste. Et lui aussi parle plusieurs langues d'ailleurs. C'est Malick Daou. Bonjour Malick Daou.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Légende du basket ivoirien, MVP de Mondial Sport. vous êtes également en retour de balle, si je puis dire. Le public, il est cosmopolite, il parle plusieurs langues dans l'enceinte qui accueillait la finale de la balle. Ça draine comme ça des supporters venus d'un peu partout en Afrique.
Oui, il y avait du monde. Il y avait du monde. Il y avait des supporters libyens. On était surpris de voir des drapeaux libyens dans le coin. Généralement, tout le monde parle anglais, mais il y avait du swahili, il y avait du lingala. Il y avait, voilà, pour dire que la BAL est en train petit à petit de se faire aussi son propre public.
Karim Baldé fait également partie du roster de Mondial Sport ce dimanche. Bonjour Karim.
Bonjour Hugo, bonjour Malick, bonjour à toutes et à tous.
Et pour bien débuter notre bilan, BAL, Ruben Boumdjé est également en direct avec nous. Bonjour.
Bonjour Hugo, et bonjour à tout le monde également.
Ravi de vous retrouver dans Mondial Sport. On vous avait eu avant le coup d'envoi, maintenant on vous a, après le coup de sifflet final, vous êtes Head of League Operations, vous êtes un des dirigeants de la Basketball Africa League, vous êtes aussi un ancien joueur, et quel joueur, un pionnier, hein, sans vous finalement, pas de Joel Embiid ni de Pascal Siakam qui brille en NBA, puisque vous êtes le premier Camerounais à avoir été drafté dans la prestigieuse ligue américaine. Concernant la balle, Ruben Boumdjé, Al Ahly Tripoli a-t-il fait un beau vainqueur et l'épilogue a-t-il été satisfaisant pour vous à Pretoria?
Oui, l'épilogue a été très satisfaisant pour nous. Je crois que Al Ahly, depuis les matchs de conférence, a vraiment montré un très grand niveau. Il était vraiment l'une des équipes les plus favorables. Et je crois que leur couronnement comme champion n'était pas trop surprenant. Et l'équipe a vraiment élevé pour moi le niveau de la Ligue cette année. Donc je crois que pour l'année prochaine, nous sommes vraiment très excités. Il faudra que les équipes qui vont essayer de gagner le champion l'année prochaine arrivent à ce niveau ou plus au minimum. Hein. Donc très très content de notre côté.
El Ahly Tripoli, un beau vainqueur. Malick Daou, vous êtes d'accord avec Ruben Mounjé-Mounjé?
Oui, absolument, absolument. D'autant plus que c'est la première équipe dans l'histoire de la BAL qui part de la période de qualification qu'on appelle la Road to BAL jusqu'à remporter le titre. C'est la seule à l'avoir fait dans l'histoire. Et ça, c'est à saluer, d'autant plus que le basket libyen retrouve, on va dire, la scène internationale depuis 2009 à cause de la situation politique qui sévissait dans ce pays. Et on a un très bon championnat en Libye avec des clubs qui se battent pour émerger. Et c'est vraiment, vraiment rafraîchissant de voir cette équipe d'Al Ahly qui a fait ce parcours si merveilleux.
Alors que nos auditeurs, qui sont majoritairement en Afrique subsaharienne francophone, se rassurent, il n'y a pas que des joueurs libyens qui jouent à l'Ahly Tripoli. Jean-Jacques Boissy, joueur sénégalais de cette franchise, est le MVP, le meilleur joueur donc de la Basketball Africa League. Ruben Boumdjé-Boumdjé, un mot sur Jean-Jacques Boissy?
Oui, je vois que voir le niveau de Jean-Jacques cette année, vous savez, il joue à la BAL, ça fait quelques années. Et je crois que cette année-là a vraiment pris un très, très, très grand pas. Je crois qu'il a montré beaucoup, beaucoup de maturité dans son jeu, beaucoup plus de patience. Je suis sûr que c'était l'effet aussi d'avoir un très bon coach et des très bons joueurs autour de lui. Donc, il a vraiment eu une saison magnifique, surtout en conférence. On a vu tout ce qu'il a pu faire et même les playoffs. Donc, c'est très beau de voir, c'est vraiment très beau de voir ce joueur local, arriver à ce niveau et devenir MVP de là-bas.
Et MVP sans être titulaire, hein, parce que aussi bien en conférence qu'en playoff, il ne commençait pas les matchs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de...
Et ça, vous comprenez bien, dans le basket, pas qu'en Basketball Africa League, ça, c'est rare.
Ah oui, c'est très, très rare. C'est déjà arrivé en NBA, mais c'est très, très rare.
C'est-à-dire qu'il brillait avec un temps de jeu restreint ou...
Il ne commençait pas les matchs. Ouais. Il ne commençait pas les matchs. Généralement, il les terminait. Par exemple, lors de la conférence Nil au Rwanda, il a été le meilleur marqueur de la conférence, 23 points de moyenne. Mais
sans jamais débuter.
Voilà, en sortie de banc, ce qui est extraordinaire.
Le super sub, quelque part, de cette... Balle et en même temps son MVP Karim Baldé.
C'est vrai que c'est d'autant plus rare que le sixième homme, il y a même une récompense pour eux en NBA, le sixième homme de l'année. C'est-à-dire à quel point c'est extrêmement rare de voir des joueurs sortis du banc devenir ensuite MVP, donc meilleur joueur d'une compétition. Moi, je voulais compléter ce qui a été dit sur Jacques Boissy, notamment sur son parcours, et c'est inspirant également parce que c'est un joueur donc local, comme on dit. Alors, j'aime pas trop ce terme-là, mais
c'est un joueur africain qui brille dans la compétition africaine.
Exactement. Et il a tenté sa chance en Europe, notamment en Espagne. Ça a pas bien marché. Il a joué aussi en amateur en France avant de revenir ensuite au Sénégal. Et c'est là où il a pu briller dans cette deuxième partie de carrière pour lui. Donc, ça prouve à quel point aussi la Basketball Africa League peut t'apporter des perspectives pour des joueurs qui parfois n'arrive pas à percer, notamment dans les championnats européens ou aux États-Unis, et ça peut ouvrir d'autres possibilités pour ensuite se révéler, et pourquoi pas, on l'espère pour lui, aboutir dans d'autres clubs à l'avenir.
Pour le titre de meilleur défenseur, Ruben Boumdjé-Boumdjé, on a Aliou Diarra d'APR, donc les Rwandais, qui ont fini troisième. Il est malien, Aliou Diarra. Ouais. La progression, finalement, puisqu'on est un petit peu sur ce sujet-là, la progression des joueurs locaux, la mise en valeur des talents africains, a-t-elle été conforme à vos attentes dans cette cinquième édition de la Basketball Africa League? C'est l'un des grands enjeux.
C'est définitivement l'un des grands enjeux. Comme on l'a dit, c'est une ligue panafricaine. On sait qu'on a toujours eu, on continue toujours à avoir de très, très grands talents en Afrique. On comprend qu'il faut beaucoup plus de côté technique à élever pour ces joueurs-là et autres. Donc, je crois voir un Aliou Diarra, voir les Jean-Jacques Boissy, voir les Sam Kélo-Sélé, ça montre vraiment ce que la Basketball Africaine essaie de faire. C'est cette plateforme qu'on a pour essayer de lever ces joueurs, montrer de quoi ils sont vraiment capables. Donc, nous sommes satisfaits, mais il y a toujours beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire dans tous les fédérations, dans tous les pays, hein, vraiment, qui sont dans le basketball ou bien qui aimerait passer ou jouer à la Basketball African League. On vous voit beaucoup plus de Diarra, on vous voit beaucoup plus de Jean-Jacques Boissy, parce que ce sont eux qui vont vraiment élever à la fin cette ligue en Afrique. On a besoin que le niveau de nos joueurs, comme des locaux, soit non, aussi bon au-dessus des étrangers. Donc, pour Aliou Diarra, on l'a découvert il y a, je crois, 3 ans, oui, il y a 3 saisons. Et ses qualités physiques sont phénoménales et on voit la progression et le coaching qu'il a reçu depuis qu'il a quitté le stade malien, ou depuis le stade malien, je dois dire. Donc, un enfant qui a beaucoup de promesses et on espère que il va continuer à vraiment éblouir dans la BL et peut-être pas, pourquoi pas, ailleurs également.
Sur un plan collectif, en revanche, Maliens et Sénégalais et globalement clubs d'Afrique subsaharienne francophone n'auront pas brillé. En revanche, Stade Malien et la ville de Dakar éliminés dès les conférences. Que faut-il faire pour qu'ils progressent, ces clubs d'Afrique francophone, d'Afrique subsaharienne francophone, Ruben Boumdjé, et surtout pour que l'Afrique du Nord, parce que là on a un nouveau vainqueur issu de l'Afrique du Nord avec un club libyen, pour que l'Afrique du Nord n'écrase pas trop la compétition, parce qu'à part le Petro de Luanda, ce sont surtout les clubs d'Afrique du Nord qui remportent. Ça ressemble un petit peu à la Ligue des champions africaine en matière de football.
Oui, c'est une question d'investissement, évidemment, on le sait tous. Hein. Je crois que les pays de l'Afrique francophone ou subsaharienne, vraiment, c'est, je vais dire, un défi qu'on leur adresse. Il faut vraiment que ces pays aient une politique sportive qui va vraiment, vraiment, vraiment essayer de soulever le basketball dans leur pays, que ce soit dans l'investissement dans les infrastructures, l'investissement dans le coaching, avoir des ligues proprement faites pendant toute la saison.
Donc là, c'est vraiment au niveau des pays que ça se joue, des gouvernements et des autorités sportives. Ce n'est pas la BIAL qui peut décider d'une certaine manière.
Non, ce n'est pas la BIAL, mais je crois que nous, on inspire. Hein. Je crois qu'on a pour inspirer tous ces pays. C'est ce qu'on voit avec la BIAL depuis qu'elle a commencé. Il y a beaucoup plus de pays ou de clubs qui font tout pour gagner leur championnat domestique, pour pouvoir accéder à la BIAL. Donc, on est là comme une ligue vraiment de grosse inspiration. Et je crois que c'est aux fédérations, même le secteur privé, d'essayer d'inverser dans leur pays. Et je crois que c'est ce qui fait la différence avec les pays du Nord, qui ont des ligues beaucoup plus constantes, beaucoup plus riches par rapport aux autres, à l'exception de Petro, de l'Angola. Je crois que c'est une raison pour laquelle on a l'Angola ou bien les pays du Nord jusqu'à présent qui ont gagné. Donc,
mais l'Angola est un immense pays de basket, voire le pays de basket sur le continent africain.
Oui, oui. Donc, parce qu'on le sait tous, quand on parle juste de qualité athlétique et autres, on a historiquement, on a des joueurs qui viennent du Sénégal, du Cameroun, du Congo, tous ces pays-là. Donc, je crois que dès que ces fédérations vont vraiment vont faire un peu plus de travail que maintenant, on ne devrait pas avoir vraiment un gros pont entre le Nord et le reste de l'Afrique.
La BIAL, Malick Diaw, c'est vraiment là de révélateur. Effectivement, le prix du meilleur défenseur, enfin le titre de meilleur défenseur, il porte le nom de Dikembe Mutombo, Ruben Boumdjé ou Pascal Siakam ou Joel Embiid. On sait qu'il y a du talent au Cameroun, au Congo, comme on vient de l'entendre. Effectivement, le Sénégal, immense pays de basket, avec un MVP de la balle. Et on voit que au niveau du travail de fond, c'est encore une fois l'Afrique du Nord qui tire son épingle du jeu. Donc là, il y a un vrai révélateur.
Je pense que ce qu'il faut faire au niveau des pays non nordistes,
comme la Côte d'Ivoire,
par exemple. Côte d'Ivoire, c'est de s'organiser. C'est vrai qu'il y a une politique globale au niveau ministériel qu'il faut développer. Mais je pense que les clubs doivent se structurer, c'est-à-dire aujourd'hui se considérer comme des entités privées et chercher du financement privé. parce que c'est fatigant de chaque fois attendre que le ministère débloque les fonds pour la préparation, que le ministère débloque les fonds pour les billets d'avion. Et les joueurs, pendant ce temps, attendent, ils végètent, et ça, c'est très compliqué. Alors que dans les pays du Nord, c'est beaucoup plus simple. En Angola, le Petro est un club qui est sponsorisé par de grandes maisons, de grandes boîtes. Le Primeiro d'Agosto, c'est pas mal aussi. Voilà, il faut que de ce côté de l'Afrique, on puisse s'organiser.
Comme ce qu'on avait vu avec le TP Mazembe en matière de football et l'argent de Moïse Katumbi qui permettait au club d'être structuré comme un immense club.
Mais ça, ça a des limites. Le mécénat, pour moi, c'est pas quelque chose de viable. Mais il faut vraiment structurer ces clubs-là comme des entités privées, aller chercher des financements privés, des partenariats ou même des actionnariats privés pour essayer justement de mieux s'organiser en rendant compte. Parce que moi, j'ai des exemples de clubs où le compte bancaire du club, c'est le compte personnel du président. Donc on peut pas.
Il faut un vrai modèle économique, voilà. Viable, durable. On touche aussi à un autre point. Vous qui aimez beaucoup les sports US, Karim Baldé, on compare la BAL à la NBA. Sauf qu'une différence, c'est pas une ligue fermée. Non. On y vient par justement la réalité de son championnat et de son basket local. Donc il y a aussi ça. Ce sont pas des franchises qui existent un petit peu. Pas hors sol, mais qui peuvent se promener d'une ville à l'autre aux États-Unis. Là, on est sur un modèle un peu hybride entre sport US et sport plus traditionnel à l'européenne ou comme on voit en Afrique.
Oui, c'est pas plus mal parce qu'on pourrait pas, à mon avis, adopter un système de franchise au basket africain et à la BAL pour les raisons que Malik a abordées, c'est-à-dire que déjà qu'on voit que les pays d'Afrique du Nord ont une longueur d'avance, si c'était une ligue fermée, ce serait encore pire parce que l'écart pourrait s'accroître d'année en année, surtout si les clubs d'Afrique francophone n'ont pas les sponsors, les grandes entreprises derrière elles, donc encore eux qui aient cette ouverture. Et moi, je suis plutôt d'accord pour ça. On ne peut pas calquer le modèle américain sur l'Europe ou sur l'Afrique, ça c'est une mauvaise idée. Et l'exemple de l'Arli Tripoli en est un parce que eux, ils sont venus du Road to BAL et dans une ligue fermée, ils n'auraient jamais eu leur chance. Donc c'est bien aussi d'avoir ces équipes-là qui sortent du bois et qu'on espère voir s'installer sur la durée, parce qu'effectivement, l'autre versant d'une ligue semi-ouverte, c'est que du coup, on n'est pas toujours assuré de revenir. Mais au moins, ça pousse les investisseurs, ça pousse les équipes à aller vers l'excellence pour rester le plus longtemps possible dans la plus grande compétition, en l'occurrence la BAL.
Et puis félicitons également les Capverdiens de Creole Stars de Joe Lopez, qui ont été un petit peu nos chouchous dans Mondial Sport. Eux aussi venaient de la route to BAL. Ruben Boumdjé Boumdjé, je vais vous libérer juste avant une question. Est-ce qu'il y a des Ruben Boumdjé Boumdjé justement dans cette saison de BAL? L'idée, c'est de garder les talents africains évidemment, mais on sait aussi qu'il y a des passerelles et que la valorisation de cette ligue, elle se fait aussi par les passerelles vers la NBA américaine. Est-ce qu'il y a des joueurs là qui dès la prochaine draft, dans quelques jours, américaine, pourrait faire la transition entre la Basketball Africa League et la NBA américaine?
À mon opinion, je pense pas pour cette draft-ci, mais peut-être dans les prochaines drafts, on verra. On connaît évidemment le cas de Ulrich Chomche l'année dernière. Bon, il est à l'académie et autres, il a joué un peu pour la BAL à la NBA. Donc, écoutez, je crois que c'est des trucs qui arriveront tôt ou tard, ou peut-être un peu plus constant.
Mais c'est un objectif, vraiment?
Je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'est un objectif nécessairement. Je crois que ce sera juste l'effet d'avoir vraiment un très bon écosystème de basketball en Afrique avec beaucoup de bons développements, que ce soit par des clubs et autres, que ce soit des académies en Afrique. Et ce sera juste un produit pour moi de ça. Ce sera des joueurs qui auront la possibilité ou l'opportunité de jouer à la BAL et montrer le talent et aller directement en NBA pour ceux qui seront vraiment très doués.
Ruben Boumdjé Boumdjé, juste une petite question bonus, Malik Davo, il veut vous dire quelque chose.
Bonjour Ruben. Oui, moi ma question c'est, voilà, aujourd'hui, 2 ans après, je connais des coachs qui n'ont pas été payés, je connais des joueurs qui n'ont pas été payés, et ça donne quand même une mauvaise image de ce que la BAL essaye de construire. Est-ce que vous, en tant que BIOPS, vous pouvez justement essayer de
pas payer par leur club, on est bien d'accord,
c'est pas la BAL qui les... Non, pas par la BAL, mais par leur club. Voilà, est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, sais pas moi, de façon coercitive, amener ces clubs-là à respecter les contrats des joueurs et des coachs?
Oui, c'est quelque chose qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Je crois qu'il y a un petit peu de différence là-dedans. Quand on parle de la saison de billets, ça, on s'assure toujours que les joueurs sont payés. Je crois qu'il y a des joueurs qui ont des contrats pendant toute une année, dans même pour le championnat domestique. Bon, c'est là que nos régulations sont un peu limitées. Donc, on s'assure quand c'est la saison de billets, comme c'est notre championnat, c'est ça qui nous concerne, que les joueurs sont payés, que les coachs sont payés. Mais même avec ça, on travaille vraiment toujours là-dessus avec les équipes. On essaye toujours de parler aux joueurs qui nous le disent. Parfois, ils ne nous disent pas, malheureusement. mais moi, on les encourage toujours de nous dire s'il y a des problèmes de salaire quelque part et on voit comment discuter avec les équipes pour qu'effectivement, elles puissent adhérer à leurs à les obligations financières.
Merci beaucoup Ruben Boumdjé d'avoir été avec nous, dirigeant de la Basketball Africa League, ancien grand joueur camerounais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour revenir sur le dénouement de cette 5e édition de la BAL. À bientôt dans Mondial Sport. Musique et on continue à revenir sur la balle, à revenir sur le dénouement de la Basketball Africa League et on parlera aussi un petit peu NBA, promis. Mondial Sport sur RFI.
We can do, we can do, we can do it together.
We can do, we can do, we can do it together.
We can do, we can do it, we can do it together.
We can do, we can do, we can do it together.
Collabo, collabo, great collaboration together.
Ça nous vient du Sénégal et de la playlist de RFI. La balle, est-ce que c'était de la balle? Retour sur l'édition 2025 de la Basketball Africa League dans Mondial Sport sur RFI. La NBA du continent chapeautée par justement la grande ligue américaine, en tout cas qui profite de son expertise, si je puis dire, et de l'aide, de la sagesse, de glorieux anciens de la NBA et justement un talent en partie sénégalais mais qui a aussi beaucoup profité à l'équipe de France. Boris Diaw, il a été interrogé à Pretoria la semaine passée, donc en marge de la finale remportée par Tripoli face au Petro de Luanda. Interrogé Boris Diaw par Valentin Hugues.
Boris Diaw, bonjour.
Bonjour.
Donc on est à Pretoria, en Afrique du Sud, finale de cette Basketball Africa League. Est-ce que c'est une compétition que les fans sur le continent africain suivent particulièrement? Est-ce que c'est bien suivi ici?
Oh oui, je pense que c'est bien suivi. En tout cas, c'est bien relayé. On le voit aujourd'hui, on voit vraiment la qualité de production.
Du coup, bah ouais, c'est assez simple de pouvoir suivre, si on veut, à travers tous les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui. Et ils communiquent très bien depuis plusieurs années maintenant. Et donc, je pense que ça a entraîné la passion de plusieurs fans. Ouais.
Alors, on vous connaît champion de NBA, capitaine de l'équipe de France, mais vous êtes aussi engagé pour le développement du basket sur le continent. Si on devait faire aujourd'hui un peu un état des lieux, quels sont les points forts, quels sont les défis encore à venir pour que le basket africain continue de se développer?
Ouais, je pense qu'il continue de se développer de la bonne façon, c'est-à-dire justement avec des produits comme celui-là, comme la balle, la ligue vraiment qui est un multi-pays et donc qui peut apporter beaucoup, beaucoup d'intérêt et puis surtout un certain niveau. C'est ça aussi, l'idée c'est vraiment d'avoir les meilleures équipes de chaque pays qui se rencontrent. C'est bien parce que c'est quelque chose qui manquait, on le voit dans les autres sports, il y a eu Champions League au foot, etc. Enfin, ça manquait au basket sur le continent africain.
Comment, au fil des années, après une compétition comme ça, ça peut aussi avoir un impact sur des jeunes joueurs qui voudraient se mettre au basket?
Tout est connecté, hein, de toute façon. Et c'est souvent des modèles que vont regarder les jeunes qui vont se mettre au basket. Souvent, ils ont des idoles, des gens qu'ils ont regardés, qu'ils ont admirés en étant gamins et qui leur donnent envie de jouer, de partager cette passion. Donc, c'est ça aussi, toute cette transmission.
Et on parlait de niveau. On a vu au dernier JO à Paris, l'équipe féminine du Nigeria aller jusqu'au quart de finale, ce qui est historique, c'est la première fois. Le Soudan du Sud aussi a fait une belle performance. Est-ce qu'on peut s'attendre à l'avenir à avoir de plus en plus d'équipes nationales africaines, par exemple en 2028 au prochain JO?
Bah, c'est sûr, hein, on assiste vraiment à une globalisation du basket, un niveau qui est en train de se niveler, où toutes les équipes et tous les niveaux commencent à être de plus en plus proches. Et on le voit du coup bah, avec des équipes bien sûr africaines qui performent. C'est vrai chez les filles aussi, le Nigeria et le Sud-Soudan que moi j'ai vu de plus près aussi, qui a fait de superbes performances. C'est clairement la direction dans laquelle on va et on verra dans le futur de plus en plus de performances de pays africains sur les grosses compétitions internationales. Oui.
Vous êtes vous-même impliqué avec votre fondation Babacards. C'est quoi là immédiatement ce dont a besoin certains clubs? Est-ce qu'il faut que les gouvernements s'impliquent plus pour le sport?
Oui, bien sûr. Je pense qu'avant tout, ça passe par une politique sportive, ça passe par une envie commune. Et puis ensuite, il y a aussi, bien entendu, les privés, les entreprises. Et donc, il faut qu'on voit aussi qu'il y ait plusieurs acteurs qui en même temps se mobilisent pour aller dans le même sens. Mais c'est vrai que le sport est fédérateur. Et on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont là sur la balle, il y a beaucoup de gens que ça intéresse. Le basket, entre autres, apporte beaucoup de belles valeurs dans lesquelles beaucoup d'entreprises se projettent également. Donc je pense que c'est de bon augure, il faut continuer dans ce sens-là.
Merci beaucoup.
Merci.
Boris Diaw, franco-sénégalais, bon, capitaine de l'équipe de France, champion d'Europe, notamment en 2013, l'un des potes, en tout cas potes coéquipiers, va dire, sur le terrain de Tony Parker. La présence de ce type d'idole des années 2000-2010, Karim Baldé, autour de la balle, on sait que c'était déjà des joueurs, qu'ils soient, on va dire, de nationalité sportive africaine, d'un pays africain ou pas, qui étaient déjà présents avant même la balle, quand il y avait les NBA Africa Games. Il y a vraiment tout un travail de fond pour que ces joueurs-là... chapote entre guillemets quelque chose de en rapport avec la NBA et le basket en Afrique.
Oui, avec les programmes Basketball Without Borders par exemple, oui. Hein, qui avait été initié par la NBA. C'est là où on voit quand même que les ligues nord-américaines essaient toujours de garder un lien avec les joueurs qui deviennent ensuite des anciens joueurs pour qu'ils puissent réinvestir un peu de leur temps et ou de leur argent dans des causes où là, en l'occurrence, dans le développement du basket en Afrique. Et donc, c'est toujours une bonne chose d'avoir des têtes d'affiche. Après, par rapport à ce que disait Boris Diaw, je souscris à peu près à ce qu'il dit, sur l'exposition, c'est vrai qu'elle est bien produite, et Malik en sait quelque chose, hein, pour le coup.
Mais qui la commente avec Canal+.
Exactement, elle est bien produite, ça passe sur des chaînes APH qui sont très suivies en Afrique, que ce soit en Afrique francophone, mais aussi en Afrique anglophone. Il y a des relais en clair, notamment avec TV5 Monde pour ne pas les citer, mais peut-être qu'on gagnerait à l'avenir à avoir, pourquoi pas, sur chaîne nationale. On voit que dans certaines compétitions, et je sais de quoi je parle avec la Coupe du Monde des clubs actuellement, où ça passe sur des chaînes en clair, en plus justement de la diffusion sur les chaînes à péage, bah peut-être que ça peut être un axe aussi pour que la compétition soit encore plus visible, notamment dans des pays où le basket n'est pas vraiment visible, et là on pense à certains pays d'Afrique subsaharienne francophone.
Alors, les matchs sont diffusés aussi sur le YouTube, hein, gratuitement, aussi, de la BAL, donc... Voilà, ça fait que l'audimat grandit.
Justement, on entendra Madou Gallofal, donc là vraiment le big boss, nous parler de ça. Simplement pour revenir sur un point qui était abordé par Valentin Hugues et Boris Dio, la situation et la progression des équipes nationales, c'est quoi vraiment le lien entre le développement de la balle et le développement des équipes nationales? Il y a des afro-baskets masculins et féminins qui arrivent. Est-ce qu'on profite dans les sélections nationales de la BAL? Est-ce que c'est deux choses totalement différentes ou non? Ça peut se rejoindre.
Non, je pense que plus le niveau des clubs montera, plus le niveau des sélections aussi va monter parce que il faut 8 joueurs dans chaque club. Il faut 8 joueurs qui sont des nationaux du pays auquel appartient le club.
Plus on dispatche les joueurs de... Je vais voilà. Peut-être le dire de la NBA Academy qui est à Dakar.
Oui, ça c'est le bonus. En fait, il faut 12 joueurs, donc 8 qui appartiennent au pays dont provient le club, 2 joueurs étrangers, mais obligatoirement africains, et 2 joueurs étrangers qui peuvent venir d'ailleurs. Donc pour les joueurs locaux, c'est une vitrine qui est extraordinaire, qui leur permet justement de se montrer, qui leur permet de compétir à un très haut niveau, parce que moi qui commente la balle depuis la BL depuis la première saison, j'ai vu le niveau monter.
Donc les basketteurs de tous les pays africains peuvent progresser et ça profite aux sélections normalement.
Voilà. Les sélections nationales ne font que profiter de ce travail-là. On parle du Soudan du Sud, c'est un des plus gros contingents, même s'il n'y a pas de club sur ces 3 dernières saisons, c'est un des plus gros contingents de joueurs qu'on a sur la BAL. Et ça, forcément, ça influence aussi...
Et c'est la nation est clairement émergente ces dernières années du basketball africain. Il était notamment présent, ce Soudan du Sud, au JO de Paris.
Fantastique victoire de la part des Pacers, 108-91, le match 6, c'était à gagner impérativement. Ils l'ont fait et avec la manière formidable performance, sous une pression pareille, les Pacers l'ont encore fait et vont donc jouer un match 7 en finale NBA.
Je m'appelle Léo, du coup je suis fan de NBA depuis 2016 et je suis fan des Boston.
Et est-ce que, même si Boston n'est pas en finale, tu regardes un peu cette finale?
Oui, bien sûr. Bah, on a donc Indiana contre Oklahoma City. C'est pas la finale la plus sexy sur papier, mais c'est une très belle finale. D'un point de vue tactique, etc., c'est pas mal. Donc on suit forcément.
Et là, pour du coup le match 7, t'as un petit pronostic?
Je pense qu'à domicile, Oklahoma, ils vont le faire. Là, ils ont perdu bien comme il faut. Indiana, match 6. Haliburton, il a un peu touché, etc. Donc je pense qu'ils vont quand même réussir à remporter la finale. L'avantage de domicile, je pense un peu l'envie de revanche, d'avoir loupé l'occasion de terminer à Indiana. Donc ouais, je pense que Shai va mettre le couvercle dimanche.
Je m'appelle Vincent, j'ai 28 ans.
Est-ce que vous avez suivi un peu les finales NBA?
Ouais, j'ai suivi surtout les résumés, pas forcément regarder les matchs, mais j'ai suivi les résumés.
Il y a le match décisif, le match 7 dimanche. Est-ce que là, lui, vous allez le regarder?
Ouais, je pense que je vais le regarder, ouais. Ouais, il y a moyen.
Et vous avez un petit prono?
Ouais, je pense que les Oklahoma va gagner à domicile hein, pour le dernier match. Ouais, je pense. Sur le dernier match, ils vont le faire.
Espèce de crossover improbable entre la NBA et l'accent du sud de la France. C'était assez intéressant. Merci Solène Ravenel pour avoir recueilli devant le NBA Store de Paris voilà, des réactions ou des pronostics plutôt de fans de la Ligue américaine. Et oui, qui est à quelques heures de son dénouement. On va pas faire trop long sur l'actualité la plus actuelle, mais on va rester dans le basket pour l'occasion, messieurs, dans ce mondial sport. On est à touche-touche entre OKC et les Pacers de l'Indiana, 3-3, c'est passionnant, ça peut aller d'un côté comme de l'autre dans quelques heures pour le Game 7 ce soir. Shai Gilgeous-Alexander d'OKC d'un côté contre Pascal Siakam, évidemment le Camerounais de l'autre, et les Pacers de l'Indiana. Vos pronostics, Karim Baldé?
C'est dur de faire un pronostic et on avait parlé ici même il y a 2 semaines de la finale, je crois que c'était juste après le match 1. Et le fait de voir le match aller en 7, c'est-à-dire aller jusqu'au 7e match décisif, ça prouve à quel point le niveau des deux équipes est beaucoup plus serré que ce à court on s'imaginait. OKC était largement devant en termes de bilan, c'était la meilleure équipe de la saison régulière.
Avec le MVP, Shai Gilgeous-Alexander.
Exactement, avec le MVP SGA, mais clairement... Indiana ne lâche jamais et Pascal Siakam est juste incroyable. En tant que fan des Raptors, je le sais, il était champion NBA 2019 avec les Toronto Raptors, mais quand même de le voir à ce niveau-là, c'est juste incroyable. Et puis Tyrese Haliburton, parce que c'est quand même la star de l'équipe, il est censé être blessé ou légèrement touché, on entend ça, mais bon, quand même, pour quelqu'un qui est censé être un peu blessé, je trouve qu'il a quand même une grande forme, et c'est pour ça que c'est tellement dur de donner un pronostic. La logique voudrait que ce soit OKC, le Thunder qui gagne, mais honnêtement, tout est ouvert.
Mais c'est passionnant. On disait qu'elle n'était pas sexy sur le papier. On a entendu ça tout à l'heure, cette finale. On disait que ce n'était pas deux gros marchés qui s'affrontaient. Ouais. Mais alors là, on se régale en termes de scénario, McDow.
Oui, on a deux petits marchés, c'est vrai. Mais on a du très bon basket. Et pour les puristes de ce jeu-là, je pense que c'est du pain béni. C'est du pain béni d'avoir la meilleure équipe de la saison régulière qui était donnée vainqueur de la finale 4-0. Après, les gens se sont ravisés 4-1. 2. Et aujourd'hui, tout le monde a peur parce que la résilience de cette équipe des Pacers, elle est incroyable et elle fait plaisir à voir. Et puis, je pense que pour l'Africain que je suis, Pascal Siakam est peut-être en train de réaliser quelque chose d'historique. S'il est champion, là, pour moi, il sera MVP des finales, après avoir été MVP de la conférence Est. Je pense que ça peut être quelque chose d'historique.
Vous voulez dire qu'il pourrait avoir le droit à son mondial sport? Je suis bien d'accord avec vous. Je donne rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer le dénouement et parler du nouveau champion NBA. Pour l'instant, on ne sait pas qui c'est, mais bon, si vous avez envie de vous lever ou de vous coucher tard ou de vous lever tôt cette nuit, n'hésitez pas. Sinon, vous écoutez RFI et vous aurez le nom du vainqueur de la NBA en 2025. Je vous avais promis les mots du président de la Basketball Africa League. Là, on peut débriefer le dénouement. C'est Alali Tripoli qui a battu Petro de Luanda la semaine dernière. Amadou Gallo Fall, donc big boss sénégalais de la BAL, nous a accordé quelques minutes d'interview hier. Il fait le bilan de l'organisation de l'édition 2025, la cinquième de la BAL.
Oui, absolument. Parce que les résultats parlent de même, parce que l'objectif reste le même, c'est de créer un produit de divertissement et de sport qui va attirer, qui va engager des supporters. Et je pense que pour cette saison 5, qui est une saison emblématique, où les résultats qu'on voit sont très, très, très encourageants. Aller au Maroc pour la première fois et vraiment d'avoir vu la réception qu'on a eue là-bas, le public qui est toujours venu nombreux, supporter le FUS de Rabat, mais aussi supporter les autres équipes qui étaient là-bas, Al-Ittihad, le Stade Malien et les Rivers Hoopers. Et la compétition sur le terrain, aussi l'entertainment dans l'arena, avoir El Grande Toto, la plus grande star du moment au Maroc, communier, performer dans l'arène, ça a attiré beaucoup de monde. C'est une confirmation que le produit que nous sommes en train de créer et vraiment attire, quoi. Et puis la même chose en Afrique du Sud pour les finales pour la première fois, des tickets très prisés, de superbes compétitions sur le terrain. Quand on va dans de nouveaux territoires comme le Maroc, il y a une empreinte locale, parce que ce qu'on essaie de faire, c'est d'intégrer tous les éléments de culture locale, mais le sport reste le noyau de ce que nous faisons et ce produit qui continue à s'améliorer, à confirmer, quoi, l'engagement des supporters, pas seulement au Maroc et en Afrique du Sud, mais tout le long de la saison, évidemment au Sénégal où ça a confirmé, et aussi au Rwanda.
Les affluences dans les stades, vous en parliez, mais aussi les retombées médiatiques, tout ça a-t-il été à la hauteur de vos attentes?
Oui, on a battu tous les records en termes d'affluence dans les salles. Déjà, l'année dernière, pour vous donner une idée, sur toute la saison, je pense qu'on avait 120 000 spectateurs qui étaient venus voir les matchs dans les arènes. Mais cette année, déjà, juste à la fin des trois types de conférences au Maroc, au Sénégal et au Rwanda, on en est déjà à plus de 110 000. Donc, ce qui veut dire que bon, là, ces records ont été battus, et aussi, surtout en termes d'engagement, notre channel YouTube, il y a des records, le match du 11 juin entre APR et Al Ahly de Tripoli, qui était à près de 190 000 views, live views, c'est toutes les indications dans nos réseaux sociaux et aussi l'intérêt des médias. On a eu un nombre record d'accréditation de médias qui viennent de partout. Et les matchs continuent à être diffusés dans 214 pays à travers le monde et dans 17 langages. Et aussi des nouvelles jeunes vedettes qui ont fait tout leur pas ici en Afrique, qui confirment, comme Jean-Jacques Boissy, qui a été nommé Most Valuable Player, et d'autres jeunes, Ali Diarra, qu'on a vu avec le Stade Malien il y a 3 ans, qui est resté dans la Ligue l'année dernière, il était avec le FUS, cette année avec APR, qui confirme qu'il a sa deuxième nomination comme meilleur défenseur de l'année. L'objectif de la Ligue aussi, c'est ça, c'est de créer ces héros locaux, d'inspirer la prochaine génération d'aspirants basketteurs, qui sachent qu'on commence à avoir ce cheminement complet sur le continent où on peut commencer à jouer au basket, intégrer un club et puis devenir professionnel. Bon, il y a encore énormément de travail à faire pour atteindre les énormes ambitions que nous avons pour cette Ligue, mais en tout cas, nous restons très encouragés.
Amadou Kalofal, il y a tout de même eu une polémique concernant cette édition 2025. On l'a dit, ce n'est pas le Rwanda qui a accueilli les playoffs cette année. Le Rwanda a accueilli l'une des conférences. Est-ce que vous comprenez que des critiques aient pu être émises par rapport à la situation géopolitique, ce conflit à l'est de la RDC dans lequel le Rwanda est impliqué? Est-ce que vous comprenez ces critiques, sachant que le Rwanda joue un grand rôle dans l'organisation de la balle?
Oui, notre focus reste le sport. Nous sommes en train de développer une ligue professionnelle de basketball panafricaine. Hein, on est dans toutes les géographies. On forme des partenariats qui ont précédé des questions géopolitiques. Oui, nous pouvons comprendre que c'est un monde qui est dynamique, c'est un monde qui aujourd'hui a beaucoup de questions, il y a beaucoup de polémiques dans différents secteurs, dans différentes géographies, pas qu'en Afrique. Mais bon, je pense que le sport peut continuer à jouer ce rôle fédérateur. En tout cas, pour nous, nous pensons que c'est mieux d'être engagés à tous les niveaux. Nous sommes ouverts à discuter avec tous les pays, toutes les communautés, parce que c'est le sport qui demande ça. Ce que nous voulons, c'est de continuer d'utiliser ce pouvoir fédérateur du sport et du basketball pour créer des opportunités de dialogue, mais c'est un langage qui transcende, je pense, tout conflit. Et notre focus reste sur le basketball, sur le développement de ce produit panafricain, en faire une locomotive de développement économique qui va créer de l'emploi, qui va générer des ressources pour le PIB en Afrique. En général, on dit que sur les 4 ans d'existence de la Ligue, il y a 250 millions de dollars qui ont été contribués sur le PIB africain et puis quelque chose comme 37 000 emplois directs ou indirects qui ont créé. Imaginez-vous ce que ça peut donner dans une dizaine d'années. Nous croyons fermement au pouvoir du sport, à la capacité du sport à être un levier de cohésion sociale, un levier de paix sociale.
Merci beaucoup Amadou Kalofal. Je vous avais promis 10 minutes, ça fait 10 minutes, donc je vous libère. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps de répondre à nos questions.
Merci à vous.
Bon courage et puis à bientôt. Amadou Kalofal, le président de la Basketball Africa League, vous a convaincu sur la question épineuse du Rwanda?
Il s'en est bien sorti avec des termes très diplomatiques.
On va dire ça comme ça. Donc on rappelle le Rwanda qui, pour la première fois, n'a pas accueilli les playoffs, le dénouement, mais plutôt une des 3 phases de conférence de la saison régulière. Et le Maroc, il en parlait, qui en a accueilli également une pour la première fois. Les stades étaient vraiment pleins partout, Malik Daou?
Oui, c'est vrai que le Maroc, ça a été une très belle conférence. Parce qu'initialement, c'était l'Égypte. Mais on s'est rendu compte après 3 saisons que le spectacle en Égypte n'était pas très suivi parce que qu'on soit de Al Ahly ou qu'on soit du Zamalek, le public se déplaçait ou pas. La salle était quasiment en dehors de la ville, donc ça, c'était pas évident. Et quand on a vu ce qui s'est passé au Maroc, c'était une très, très bonne idée pour la BAL de mettre une conférence au Maroc. Au Rwanda, il y a eu du monde, en Afrique du Sud aussi. Le Sénégal, qui est un pays de basket, c'était plein avec le folklore. Et voilà.
Et puis le dénouement à Pretoria où Valentin Hugues a aussi croisé un certain Joachim Noah, fils d'eux, mais il s'est fait un nom et un prénom tout seul, comme un grand, Joachim Noah.
Joachim Noah, bonjour.
Bonjour, très content d'être là. Finale BAL. Tout le monde est chaud, tout le monde est excité. On voit qu'il y a une vraie anticipation pour le match. Tout le monde est prêt. Libye contre Angola. Le stade est plein. C'est vraiment beau à voir.
Et pour vous, cette compétition, c'est pas seulement une compétition. Vous êtes aussi engagé, ambassadeur, investisseur. Est-ce que c'était important pour vous de vraiment être pleinement engagé dans ce projet et pas juste spectateur ?
Ben pour moi, personnellement, ça fait 5 ans maintenant que je suis à la retraite. Et Amadou Gallo Fall était un de mes mentors pendant ma carrière de basket, un grand frère à moi. Et quand il m'a dit qu'il y a une possibilité de pouvoir investir dans une ligue en Afrique, pour moi, c'était un moment de vraiment rester connecté avec le basket et pouvoir le faire sur le continent. C'était vraiment spécial pour moi parce que c'est aussi mes racines.
Et on le disait, vous êtes ambassadeur de la balle. On imagine que cette compétition peut aussi donner des objectifs et des rêves pour les joueurs qui sont sur le continent et qui pourraient peut-être vouloir un jour rejoindre cette ligue.
Pour nous, on est dans une position de pouvoir inspirer la prochaine génération parce qu'on a joué en NBA. Quand je pense à des gars comme Lou Holding qui était un coéquipier avec moi pendant 8 ans avec les Chicago Bulls, quand je savais que lui aussi faisait partie de cet investissement en termes et en ambassadeur pour la Ligue. Yann Mahimi aussi qui était vraiment comme un rival un peu, on peut dire. Maintenant on est vraiment des frères, on reste connectés parce qu'on veut vraiment pousser le basket sur le continent.
Comment cette ligue peut concrètement, peut-être économiquement aussi, tirer le basket africain vers le haut?
Déjà, c'est pouvoir donner des opportunités. C'est pas que les joueurs. Il y a vraiment un investissement près du stade. Tu vois des restaurants, il y a des business qui sont en train de se pousser. Bon, maintenant, ça fait 5 ans, c'est la 5e saison. Tu vois les sponsors sont de plus en plus grands. On voit Nike, on voit Jordan, on voit NSI. C'est vraiment des grosses marques globales.
Vous le disiez, c'est la 5e édition de cette balle. Comment vous l'imaginez, cette ligue, dans 10 ans, dans 15 ans ?
On voit qu'il y a plus en plus de stades qui sont en train de se créer partout sur le continent. Ça, c'est super. Mais après, c'est vraiment faire un investissement sur les jeunes, sur la jeunesse, pour vraiment progresser le talent. C'est le but. Quand je pense au travail que Amadou Gallo fait au Sénégal avec son académie ACID, il faut qu'on continue sa vision aussi, mais pouvoir continuer cet investissement et pouvoir investir sur la jeunesse pour que le talent est de mieux en mieux sur le terrain.
Merci Joachim.
Pas de problème, merci beaucoup.
Oui, un peu comme Boris Diaw, un ancien de l'équipe de France aux origines africaines, évidemment la famille Noah très liée au Cameroun, qui est là pour parrainer, si je puis dire, et même un peu plus la Basketball Africa League. On va se quitter. Je vous remercie Malick Dao.
C'est un plaisir.
Venu nous raconter, nous lire votre carnet de route Basketball Africa League 2025. Merci Karim Baldé. On salue un auditeur en Guinée.
Exactement, mon père qui nous écoute depuis Conakry, la capitale de la Guinée. Donc je profite pour faire cette petite dédicace.
Merci à Ariane à la réalisation. Merci à Hélène également. Merci à toute l'équipe. Et puis l'information continue sur RFI. Mondial Sport, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, le replay, hein, www.rfi.fr. Le Facebook Mondial Sport, l'Instagram RFI Sport. Et puis évidemment Radio Foot qui prend le relais. 16h TU demain sur la radio du monde. Et en attendant, une excellente soirée.